et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir nous recevons Aurore Berger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée des Yvelines, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain, des milliers de policiers vont manifester devant l'Assemblée nationale après la mort de deux d'entre eux et des nombreuses agressions dont ils sont l'objet. Ils veulent une réponse pénale plus sévère pour leurs agresseurs. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera dans la manifestation. Imagine-t-on, par exemple, Jean-Michel Blanquer manifester aux côtés des profs ? Est-ce que ce n'est pas un peu curieux ?
Non, mais on a demain un rassemblement qui est celui de nos forces de l'ordre avec plusieurs messages qu'ils envoient à la société française et qu'ils envoient aussi aux élus de la République. Moi, j'y serai également demain. Et donc, au gouvernement. Dans ces messages, il y a d'abord le fait qu'ils ont été victimes de fait de lynchage, à la fois de lynchage médiatique, de lynchage sur les réseaux sociaux. Ils ont été mis en cause de manière répétée, de manière extrêmement injustifiée, parce que on a essayé de donner le sentiment aux Français qu'il y avait une forme de racisme, de violence systémique au sein de notre police, qui n'est pas le cas. On a une police républicaine.
Oui,
déjà,
on a bien compris.
Premier message quand même important vis-à-vis de nos forces de l'ordre, qui est de rappeler que nous sommes à leur côté. Et puis après, il y a ce que vous évoquez, notamment.
Est-ce qu'il manifeste pas contre lui-même, en quelque sorte, contre son impuissance.
Pas du tout. Moi, je crois que c'est important que la classe politique montre son unité à côté de celles et ceux qui protègent les Français. On va aussi voir ceux qui ne sont pas là. De fait, une partie de la gauche ne sera pas là, notamment les insoumis. C'est-à-dire celles et ceux qui, depuis plusieurs années maintenant, moi je le vois au quotidien malheureusement à l'Assemblée nationale, essayent de mettre en accusation nos forces de l'ordre, les lancent à la vindicte populaire, alors même évidemment qu'ils sont là pour nous protéger. Donc ça c'est aussi intéressant de noter ceux qui ne seront pas là et qui délibérément ont préféré ne pas être présents. Et après, sur la réponse pénale, parce que ça c'est un point essentiel. Et c'est un point n'est pas de la responsabilité quand même.
Si on s'arrête un instant, parce que l'image de Roselyne sur Blanquer qui manifesterait aux côtés des profs, elle est très bonne, mais on pourrait filer la métaphore avec Olivier Véran qui manifesterait pour les personnels de santé, ou Olivier Dupond-Moretti.
Avec les magistrats.
Non, mais son prénom m'échappe. Éric Dupond-Moretti, qui manifesterait avec les magistrats. Au fond, la question, c'est tout de même que Gérald Darmanin, il est ministre. Donc, s'il manifeste à leur côté, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il va faire droit à leurs revendications. C'est un minimum, non ?
Imaginez, par exemple, que demain, on ait des mobilisations d'enseignants parce que des enseignants se seraient fait agresser, lyncher. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale serait à leur côté. Et quand on a eu, malheureusement, la décapitation d'un enseignant Samuel Paty, le ministre de l'Éducation nationale était aux côtés de celles et ceux qui font vivre au quotidien les valeurs de l'éducation nationale.
Mais c'était un hommage, c'était autre chose.
Non, mais on est quand même sur cet ordre-là. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement sur des revendications.
Que ce soit dans cet esprit-là, syndicats de policiers. Eux, ils sont revendicatifs,
moi,
tout de même.
Moi, j'ai échangé, je rencontre régulièrement les syndicats de police. Ils ne sont pas uniquement sur des revendications vis-à-vis de l'État. Ils sont sur des revendications vis-à-vis de la société. Parlons de la réponse pénale. Quand on a, de fait, un jury populaire, puisque ce sont les assises, un jury populaire, qui prononce des condamnations que les policiers considèrent comme étant trop faibles par rapport aux faits qu'ils ont subis, notamment à Viry-Châtillon. On voit bien que là, c'est la question de la réponse que la société est prête ou non à donner lorsque nos forces de l'ordre sont prises au piège, lorsqu'elles sont attaquées, lorsqu'elles sont violentées. Et là, on n'est pas uniquement sur un sujet de législatif, on n'est pas sur un sujet de la réponse du gouvernement, de la réponse de l'État, mais encore une fois, de la réponse que la société est prête à donner face aux attaques répétées auxquelles, malheureusement, nos policiers doivent faire face. Et je crois que c'était important que le ministre de l'Intérieur soit sur place en disant « Je suis
Éric
l'un des vôtres ».
Éric Dupond-Moretti sera là, du coup ?
Je ne crois pas qu'il est prévu d'être présent. Et puis, de fait, on a coutume de dire que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France, pour reprendre cette expression populaire. Donc, être au milieu de...
Il ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Non, mais c'est la démonstration qu'encore une fois, l'État ne peut pas faillir, ne faillira pas, et est aux côtés de celles et ceux qui protègent. Et après, il faut évidemment entendre les revendications. Et quelles sont les revendications ? On a la revendication sur les effectifs. ces 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant ce quinquennat, ce qui permet en vérité de revenir à des effectifs qui avaient été très largement abîmés ces dernières années, parce qu'on avait voulu faire, pour certains, des réductions de dépenses publiques, sauf que ces réductions de dépenses publiques, elles se sont faites aussi malheureusement sur le dos de la sécurité des Français. Donc on a cet enjeu-là. On a l'enjeu de la réhabilitation aussi, tout simplement, des moyens matériels qui sont mis à disposition de nos forces de l'ordre. Moi, je peux en témoigner. Hein. Quand on a un commissariat qui coordonne, par exemple, Trappes, dans mon département, où on sait qu'il est dans un état de vétusté invraisemblable depuis des années, mais personne n'avait mis les moyens budgétaires, tout simplement, pour qu'il soit rénové. Là, maintenant, c'est fait, c'est signé. Et puis, on a vraiment au cœur des enjeux la question de la réponse pénale qui doit être une réponse rapide. Et c'est notamment ce qu'on fait sur la question des violences qui sont commises.
Donc ça veut dire une autre loi, une nouvelle loi.
Alors, dans la loi qu'on a faite sur la justice pénale pour les mineurs, notamment, on a permis de grandement accélérer les procédures. C'est-à-dire de considérer qu'encore une fois, un mineur de 14, 15 ans, 16 ans, s'il est jugé qu'il est déjà majeur, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a aucun sens pour la société et ça n'a non plus aucun sens pour le prévenu lui-même, qui est une décorrélation totale dans la durée, en fait, au cours de laquelle on peut ou pas avoir une peine qui est prononcée. Donc il y a déjà le jugement qui doit être rendu et la rapidité avec laquelle il doit être rendu. Et puis après, il y a l'enjeu de l'exécution de la peine. Et il y a quel type de peine on considère qu'il est efficace ou non de porter.
Juste une question. Donc le Parti socialiste, le Parti communiste, le Rassemblement national, les Républicains seront là. Est-ce que c'est une forme d'union nationale? Vous l'avez dit, la France insoumise n'y est pas. D'abord, un, est-ce que c'est une union nationale? Et deux, qu'est-ce que vous entendez par comme symbole que le fait de la France insoumise ne soit pas là?
Alors, moi, j'espère, en effet, qu'il peut y avoir une concorde et une unité nationale qui doit pouvoir s'exercer autour de nos forces de l'ordre. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait trop souvent la mémoire courte. On a Stéphanie Monfermé assassinée à Rambouillet dans un attentat. On a Éric Masson qui a été aussi victime à Avignon. Et on s'émeut pendant 48, pendant 72 heures. Et les mêmes qui s'émeuvent dans des hommages, dans des rassemblements, sur les réseaux sociaux, dans des tribunes, bien parfois, ce sont les mêmes qui ensuite l'oublient au moment où il faut être présent. C'est-à-dire au moment où nos forces de l'ordre à nouveau se retrouvent sous la vindicte populaire et qu'il s'agit de les défendre. Au moment où on vote des lois. Quand on a eu le débat sur la loi sécurité globale, souvenez-vous des débats qui ont entouré le vote de cette loi, alors que c'était un principe simple qu'on défendait au sein de la majorité. Mieux protéger ceux qui nous protègent. Faire en sorte qu'ils ne soient pas, encore une fois, lynchés sur les réseaux sociaux en permanence. Faire en sorte aussi, par exemple, que les réductions de peine automatiques qui existent ne puissent pas être appliquées quand ce sont des forces de l'ordre qui ont été visées. Eh bien, ça, concrètement, ça a généré un débat qui n'aurait pas dû exister.
Sur la France
parce
insoumise,
qu'on aurait dû avoir cette concorde-là.
Sur la France insoumise, est-ce que vous pensez qu'ils ne veulent pas participer à cette manifestation ou au fond qu'ils ne peuvent pas? Parce qu'ils savent que leur cote de popularité au sein des forces de police n'est pas très élevée.
Bah, si leur cote de popularité n'est pas très élevée, il faut qu'ils se posent la question de savoir pourquoi. Ouais. Et elle n'est pas très élevée parce qu'en permanence, ce sont eux qui aussi participent au lynchage des forces de l'ordre. Il suffit d'entendre la manière avec laquelle Jean-Luc Mélenchon et les siens parlent de nos policiers et de nos gendarmes. Je ne les entends jamais les défendre. C'est ce que je dis quand certains ont la mémoire courte. C'est-à-dire, on s'émeut pendant une heure ou deux parce qu'on a un assassinat, parce qu'on a un attentat et parce que, quelque part, on ne peut pas faire autrement qu'être dans la concorde nationale pour mieux l'oublier juste après et se lâcher et lyncher. Et ça, c'est insupportable. Et je pense qu'ils auraient mieux fait de venir pour démontrer qu'encore une fois, l'ensemble des partis politiques dans notre pays est et doit être en soutien des forces de l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, un soutien aveugle. Ça ne veut pas dire que quand il y a, s'il y a telle ou telle attitude individuelle, on ne peut pas et on ne doit pas la condamner. Mais ça veut dire qu'on a la chance dans notre pays d'avoir une police et une gendarmerie républicaine et qui nous honore.
Aurore Berger, question popularité, Marine Le Pen a l'air de ramasser la mise. Parce qu'un dernier sondage, je crois que c'était la semaine dernière dans l'Opinion, montrait que 44% des policiers voteraient pour elle au premier tour et 60% au second tour. Donc ça veut dire que, dans le fond, quoi que fasse le gouvernement, de toute façon, ça montre une forme d'impuissance à protéger les policiers, puisqu'ils se tourneraient, je dis bien, ils se tourneraient vers le Rassemblement national.
Mais ça veut dire que combattre le Rassemblement national, justement, c'est le combattre non seulement en démontrant notre soutien aux forces de l'ordre, mais en leur donnant les moyens d'agir. Et donc ça va de la loi sur la sécurité globale pour mieux les protéger, au renforcement, encore une fois, des effectifs, à enfin des locaux, des lieux qui soient appropriés, du matériel qui soit approprié, à un renforcement de la justice, ce que je disais sur la justice, notamment pénale pour les mineurs. Et nous avons une réforme en cours de discussion cette semaine même, justement, là aussi sur la réforme de la justice, sur la question des réductions automatiques de peine pour enfin supprimer ce type de système. Donc voyons, c'est ça, c'est combattre le Rassemblement national, c'est le combattre concrètement sur la manière avec laquelle on change le système.
Est-ce que combattre le Rassemblement national, ça passe aussi par ce qu'a dit Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale? Je la cite, Marine Le Pen est l'ennemi raciste à abattre, l'ennemi de la République. Est-ce que ces propos ne dépassent pas les bornes de la controverse politique?
Écoutez, je n'aurais pas forcément employé le mot « abattre ». Si c'est ça la question que vous posez.
Il est lourd de sens.
Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir... Je ne pense pas que ce soit du tout la volonté d'Olivia Grégoire, un quelconque sous-entendu évident de violence. Et ce n'est pas du tout le registre sur lequel elle est. Donc je n'y crois pas. Je pense que c'est mal à propos d'avoir ce type de mots, quelle que soit la personnalité politique visée. Après, est-ce qu'il faut avoir une distinction très claire avec le Rassemblement national? Nous, on a des lignes rouges. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que les lignes rouges qui préexistaient avec un certain nombre de partis politiques, elles sont plus du tout rouges, en fait. Et elles sont franchies au quotidien. Quand on voit que les Républicains, qui n'en ont quand même plus que le nom aujourd'hui, considèrent qu'ils ne voteraient même pas pour leurs propres représentants, que ce soit Jean Rottner ou Renaud Muselier, leurs propres représentants aux élections régionales, tout ça parce que quoi? Parce que peut-être éventuellement Jean Rottner s'allierait avec nous au second tour pour faire barrage au Rassemblement national. Ça veut dire que concrètement pour les Républicains, nous sommes devenus, la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, est plus infréquentable politiquement que Marine Le Pen. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, moi je pense qu'il faut continuer à avoir des digues extrêmement claires, extrêmement tenues. Il y a des adversaires politiques, et des adversaires politiques, on peut débattre, et on peut évidemment avoir de la discorde, et on a des gens qui sont ennemis de la République. Clairement, c'est le cas pour moi du Rassemblement.
Est-ce qu'il y a de droite aujourd'hui, et celle qui, effectivement, la vieille droite chiraquienne, comme Renaud Muselier, qui veut faire barrage absolument au Rassemblement national, et celle qui veut dealer en quelque sorte, enfin, dealer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas faire des accords avec le Rassemblement national.
Et qui l'assume pas vraiment comme tel non plus, d'ailleurs. Mais de la même manière qu'il y a deux gauches irréconciliables, de manière évidente, sur les questions notamment de valeurs républicaines, sur les questions d'ordre, sur les questions de laïcité, on a aujourd'hui deux droites qui sont irréconciliables. On ne peut pas avoir au sein d'un même parti politique celles et ceux qui sont prêts à faire un barrage républicain à l'extrême droite. C'est une digue qui a toujours tenu. De Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, cette ligne-là, elle avait toujours tenu.
Et aujourd'hui, là, elle est en train de prendre l'eau.
Elle est en train clairement de prendre l'eau. Mais ce qui pose quand même la question de savoir, est-ce que ces gens ont encore beaucoup de choses à faire ensemble? Est-ce qu'on peut avoir un parti politique où cohabitent François Baroin et Nadine Morano, où cohabitent Gérard Larcher et Nadine Morano? On voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc c'est quoi la ligne politique des Républicains? C'est quoi l'alternative qu'ils ont à présenter aux Français? Et est-ce que l'alternative, ils l'assument ou pas? Est-ce que clairement, on a demain Nadine Morano qui, au-delà des régionales, dira au soir du premier tour de la présidentielle, si Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen, eh bien, moi, je n'appelle pas à voter Emmanuel Macron, voire pire, j'appelle à voter Marine Le Pen.
Aurore Berger, justement, beaucoup s'accordent à dire que Emmanuel Macron, au fond, cherche à réduire l'échiquier politique à un seul antagonisme, lui, face au Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas une stratégie un peu hasardeuse? On a vu dans le passé récent qu'à un an d'une élection présidentielle, toutes les cartes pouvaient être rebattues. Imaginons un instant une hypothèse d'école. Qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter en 2022. Imaginons-le un instant. Qui serait en mesure de battre Marine Le Pen?
Alors, déjà, vous imaginez bien qu'à la position qui est la mienne,
mais vous pouvez, réfléchir sur un cas d'école.
Donc, je ne réfléchis pas sur des cas d'école. Ah. Moi, en tant que députée de la majorité, mon objectif, il est simple, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron puisse être candidat à la présidentielle
et puisse remporter la campagne présidentielle. Mais il serait quand même intéressant de pouvoir raisonner sur des scénarios, même si vous ne les souhaitez pas.
Non, mais c'est de la politique fiction et c'est très intéressant sans doute pour écrire des livres.
Imaginons qu'il se fasse enlever par des extraterrestres.
Non, mais c'est bien pour des livres, la politique fiction et la science-fiction. Très bien. C'est pas utile quand on fait de la politique. Je suis pas là pour commenter la politique, je suis là pour essayer d'en faire. Et donc, en faire, c'est tout simplement porter des convictions très claires sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, sur les enjeux de sécurité qu'on évoquait, et encore une fois, sur des digues qui doivent être tenues. Et aujourd'hui, ces digues, elles s'effritent. Est-ce que c'est nous qui rétrécissons le champ politique, ou est-ce qu'à un moment, ce sont les Français qui font des choix au moment des différentes campagnes électorales? Et de fait, un, les Français ont fait des choix, on peut les regretter. Moi, je ne considère pas que les Français, ils votent bien ou ils votent mal. Ils votent. Mais et c'est nous qui, après, devons en tirer des conséquences. Mais de fait, on voit bien que le champ, il se réduit aussi, parce qu'encore une fois, les Républicains, et j'ai du mal à employer ce mot maintenant en les concernant, eux-mêmes ne veulent plus assumer leur rôle aussi dans l'opposition, mais qui doit être une opposition constructive et une alternative démocratique.
Aurore Berger, est-ce qu'il y a une dérive quand vous entendez sur la majorité pénale Marine Le Pen qui dit ça doit être 16 ans et derrière Xavier Bertrand qui dit ça doit être 15. Est-ce que là il y a une surenchère entre la droite et l'extrême droite et dans le fond vous au milieu qui comptez les points?
J'ai pas envie de compter les points en vérité, parce que je pense que s'il y a plus de distinction entre ce qu'est la droite républicaine et ce qu'est l'extrême droite, c'est extrêmement inquiétant pour la droite républicaine qui démontre qu'elle est en train de se perdre et que cette course à l'échalote, en vérité, elle ne la gagnera jamais. Courir après le Rassemblement national, c'est faire monter le Rassemblement national, c'est accréditer ses thèses, c'est accréditer tout simplement les idées politiques qui sont les siennes et c'est les faire advenir. Par contre, être extrêmement ferme vis-à-vis des attentes des Français, ne pas traiter avec dédain les inquiétudes qui sont celles des Français et qui sont légitimes sur l'identité de notre pays, sur les frontières de notre pays, sur la laïcité, sur nos valeurs républicaines, ça, c'est ce qu'on devrait tous faire en tant que républicains. Mais ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Et moi, je crains, encore une fois, que la campagne présidentielle qui va s'ouvrir, qui s'est ouverte, de fait, avec cette campagne régionale, on le voit bien, avec une forme de primaire de la droite, avec Valérie Pécresse, avec Xavier Bertrand, parce que c'est ça qui se joue. Ils ne jouent pas les régionales, ils jouent la primaire de la droite au moment des régionales. Il faut quand même être clair aussi vis-à-vis de leurs intentions. Eh bien, je crains, en effet, que ce ne soit qu'une dérive régulière. D'ailleurs, Jordan Bardella s'y est pas trompé. Il a dit que Valérie Pécresse était en train de lui prendre tous ses thèmes de campagne. Donc ce n'est pas nous qui le disons, malheureusement.
Pour finir très rapidement sur un peu de légèreté, demain, un retour à un début de vie normale avec l'ouverture des terrasses. Que vous avez prévu, vous, d'aller prendre un petit café ou
un petit verre de blanc? Si le temps est avec nous,
avec modération,
si le temps est avec nous d'être en terrasse, c'est surtout de retourner au musée et au cinéma.
Donc ça sera d'abord les musées avant les terrasses.
Exactement. Donc, et j'espère et je crois que les Français sont impatients de retrouver non seulement une vie sociale, le lien social, mais aussi la vie culturelle qui nous a beaucoup manqué et que la réouverture des musées, des théâtres, des cinémas, des salles de spectacle est quelque chose
mais
très attendu.
Mais les bistrots, c'est aussi la culture française.
Et les bistrots, ça fait partie aussi de notre art de vivre. Exactement. Et de notre identité. Donc tous au bistrot avec plaisir.
Merci.
Merci, merci beaucoup, Aurore Berger. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.
RFI, chez vous.